réveillé jeudi matin et sur WhatsApp, j'ai reçu une vidéo de Bretagne. C'est mon fils David et sa femme Stéphanie qui travaillent dans un centre là-bas maintenant. Ils commencent une œuvre, hein, ils suivent. C'est bien, hein, mon fils me suit dans le ministère. Quelle joie, quelle joie. Et il m'a envoyé une vidéo de ma petite fille Laetitia. Ah, elle a un an et demi, c'est ça? Un an et demi à peu près. Et elle est sur une table, haute comme ça, là, sur une table, et elle commence à chanter Yahweh, Yahweh. Bon, elle ne chantait pas toutes les paroles, mais. Et elle commence à danser avec les parents, bien sûr, ils sont là, mais elle est toute seule sur la table. Elle fait comme ça, et après elle fait un petit truc comme ça, et après elle fait comme ça, et après elle descendait comme ça. J'ai dit, elle ne va pas se lever. Oh, elle se lève, j'ai dit, voilà, ça c'est une future skieuse là. Qui... hein? Elle a hérité les cuisses de son papa, hein? Ça c'est sûr. Et non, mais ça a tellement rempli mon cœur de joie. Parce que j'ai vu quand même que, moi je l'avais tenue dans mes bras quand elle avait quelques jours. Et là, elle était tout petit, il n'y avait rien. Bon, elle était formée, mais elle ne bougeait pas, elle ne pouvait pas se tenir sur ses deux jambes. C'était tout un début de vie. Et souvent c'est comme ça pour nous, hein. On rencontre le Seigneur, ou quelque chose se passe en nous, on trouve une spiritualité, on tâtonne un peu, mais on est un tout petit bébé, un petit bébé Christ en nous, et ça doit grandir, ça doit grandir, ça doit grandir, ça doit grandir, et ça me faisait tellement de joie de voir ma petite fille grandir comme ça. Et bon, il y a une langue à venir, hein. Elle n'a qu'un an et demi, c'est toujours. Elle ne sait pas même vraiment parler, elle ne peut pas courir le marathon encore, hein. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui lui manquent, mais c'est un début. Et quand j'ai vu ça, j'ai pensé au cri de cœur de l'apôtre Paul. Quand il. Vous savez, lui, il aimait beaucoup l'église, lui. Il aimait beaucoup l'église, mais qu'est-ce qu'il aimait? Il aimait les pierres, il aimait le toit, il aimait les choses sur le mur, les peintures. Est-ce qu'il aimait l'église comme ça? Je pense que bon, il faut toujours un abri pour nous accueillir bien, qu'on se sente bien à l'aise. Mais lui, il aimait, pour lui, les gens. Il aimait l'église qui était des pierres vivantes. Et sa passion, sa plus grande passion, c'était de voir grandir Christ. La personne de Jésus, pas juste d'une manière abstraite ou une manière théorique, une manière à l'extérieur de l'Église d'un côté, mais il voulait voir Christ formé dans le cœur de chacun, parce qu'il dit quand Christ est formé dans le cœur de chacun, ça c'est vraiment l'Église ensemble. Et donc là, en Galates, chapitre 4, Galates 4, 19, il nous donne une grande révélation. Et d'un côté, on peut dire qu'il est un peu paternaliste comme il parle aux chrétiens, mais je pense que ce n'est pas juste le paternalisme bon marché, c'est il est un père. Et là, il disait plus tard, je pense qu'il disait aux Corinthiens, quand une autre église, il dit, vous avez beaucoup d'administrateurs, mais vous n'avez pas beaucoup de pères. Et je pense que Dieu, il veut des gens qui aiment l'église. Et là, je parle de l'Église en grand deux, hein, partout. Mais il faut que l'Église ait des gens comme les papas, les mamans, qui disent, voilà, mes enfants, hein, Galates 4, 19, mes enfants, tu vois l'amour dans cette phrase, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau, il avait l'habitude de vivre ça, de nouveau, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Waouh! Ça, c'est une belle prière. Si tu ne sais pas comment prier pour ton voisin, si tu ne sais pas comment prier pour l'Église, tu pries, tu dis, mais Seigneur, que Christ soit formé dans l'Église, Seigneur. Et après, il va dire, oui, mais commence avec toi. Tu vois? Que Christ soit formé dans la vie de ma femme, pas de problème. Ah, je viens de passer quatre jours de rêve. Hein, je vous souhaite de vivre la même chose. On était en Suisse, dans un petit chalet, et il y avait le soleil en octobre dans les Alpes. Incroyable, hein, dans les pré-Alpes. On n'était pas dans les grandes hauteurs. Mais Christ formé, Christ formé dans nos relations. Christ formé. Et ça, c'est une bataille. Quelquefois, il y a la chenille, hein, il entre dans le cocon. Hein. C'est pour être transformé. Et je vais vous dire, le moment que vous acceptez de suivre Jésus, vous entrez dans le cocon. Si vous voulez rester chenille, vous êtes libre. On reste chenille. Mais là, il y a un moment de grande transformation. Quand on devient chrétien, c'est un moment de grande transformation. Et ce n'est pas facile. Tu entres dans le cocon. Et ce cocon est souvent un temps d'épreuve. On peut dire le cocon de la croix. Voilà où ta vie de péché, ta petite vie minable, ton passé, ta victimisation, tes rejets, tout ça est transformé. Vous savez, la chenille sort avec des ailes colorées. Il sort avec des ailes. Et quelquefois, quand on est dans le moment difficile, hein, quand il faut sortir un peu du cocon, c'est une souffrance terrible. C'est une souffrance terrible pour la chrysalide là, qui doit apprendre et dire, ah là, j'ai une autre dimension. Je ne suis pas juste scotché sur la terre. Ça, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Que la vie n'est pas juste d'être scotché sur la terre. Regarder Patrick Poivre d'abord et de dire, voilà, il n'y a que ça, il n'y a que de le fric qui compte, il n'y a que le fric et tout ça. Voilà, être sur la terre comme des chenilles. Mais là, il y a une dimension spirituelle où tu montes, où tu as des ailes. Des ailes. C'est Rémi, tu as des ailes. Nous avons des ailes. Ça s'appelle l'esprit en nous. On est appelé vers la hauteur. On est appelé à communier avec Dieu, à avoir des ailes. Et quelquefois, ces ailes poussent dans les difficultés, dans les afflictions. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ouais, mais. Tu sais, on gagne nos ailes. On gagne nos ailes. Tu sais, la chenille doit mourir un peu pour devenir un papillon. Et je dirais, la chair doit être crucifiée pour devenir un homme et une femme spirituelle pour le Seigneur. Alléluia. Alors, Paul, il prie pour ça, je pense. Il dit, je prie que Christ soit formé en vous. Parce que en nous sortant avec la beauté de Christ imprégnée en nous. La beauté de Christ. Et donc, qu'est-ce que c'est cette beauté de Christ en nous? Qu'est-ce que c'est cette beauté de Christ? Qu'est-ce que c'est cette beauté de Christ? La beauté de Christ a plusieurs dimensions en nous. Et moi, j'aime bien l'Ancien Testament, parce que chaque fois qu'il y a une naissance dans l'Ancien Testament, ça, c'est une préfiguration de Jésus en nous. Chaque fois qu'il y a une petite naissance, tu peux apprendre beaucoup sur qui est Jésus. Parce que bon, l'espérance, je dirais, messianique de l'Ancien Testament, il y a une grande espérance pour celui qui est loin, le Messie. Et là, on peut dire messianique, mais c'est le même mot pour Christ. Christ, Christ, Christ. Et pour moi, chaque fois que tu vois naître un enfant, pas tout le temps, mais dans la plupart des cas, ça peut être une petite expression, une petite préfiguration de la naissance de Jésus-Christ. Tu vois, Oscar Kuhlmann, c'est un grand théologien. Moi, je l'aime beaucoup. Hein, je suis en train de le découvrir en ce moment. Et il a dit, qu'est-ce que c'est le but du culte chrétien? Quand on est là, ce matin, qu'est-ce que c'est le but de faire un culte? Et il donne une réponse. Hein, je cite Oscar Kuhlmann, il dit que le corps de Christ prenne réellement forme dans l'Église. Que le corps de Christ prenne réellement forme dans l'Église. Donc, c'est quoi ça? C'est d'avoir Christ peint sur le mur? Non. C'est de le voir dans les sacrements. On va faire la Sainte Cène après. Hein. Et c'est de le voir dans la liturgie de l'adoration. c'est de le voir dans la parole de la Bible qui est prêchée, et c'est de le voir dans la communion fraternelle. Tu vois, il y a ces expressions de Christ. Et là, on vient, moi je suis souvent boosté les dimanches, parce que je rencontre Jésus. Ils prennent forme, on est le corps de Christ, et que Christ soit formé en nous. Et donc là, je vais vous donner quatre formes de Christ ce matin, si j'ai le temps. Si je ne fais que deux, les autres seront pour une autre fois. Mais je veux vous donner quatre expressions de Christ dans votre vie individuelle, mais aussi dans la vie de l'Église. Et donc c'est perso, mais c'est aussi pour tout le monde. Et on va lire Genèse 29, et je vais utiliser les enfants de Léa pour illustrer quatre expressions de Christ dans nos vies. Hein, je n'ai pas le temps de faire Rachel et Léa, et il y a quand même toute une... Et c'est eux qui enfantent Israël finalement. Mais voilà, on va voir les enfants de Jacob, c'est Genèse 29. Et c'est une histoire un peu... Comment je peux dire? J'allais dire un peu triste, c'est vrai, mais c'est très réel. C'est une histoire qui me touche beaucoup. Parce que tu as deux femmes au début de cette histoire. Tu sais, pour avoir un enfant, il faut une femme. Hein? Et donc, verset 30 de Genèse 29, c'est Jacob, il a deux femmes. Et il va vers Rachel, qu'il aimait. Et après, c'est triste parce qu'il dit qu'il l'aimait plus que Léa. Et tu vois déjà la concurrence qui est là. C'est un contexte un peu difficile pour Léa. Et après, verset 31, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Ah là là, là il y a toute une réalité là. Ça c'est, il y a beaucoup de souffrance dans le monde. Il y a beaucoup de souffrances. Il y a des souffrances physiques. Mais je ne pense pas que... Ouais, les souffrances physiques sont très dures quelquefois à supporter. Mais il y a des souffrances de l'âme. Et je pense que la souffrance de ne pas être aimé est une des plus grandes souffrances qu'on peut avoir. Parce que ça déstabilise notre vie. C'est comme si on marche en boitant. Et je ne connais personne qui peut dire « Ah, j'ai été aimé parfaitement toute ma vie. » Je ne connais personne qui peut dire ça. Mais cette histoire d'une naissance, tu vois, on cherche une naissance à partir de cette histoire triste, de cet état des choses tragique. Je ne suis pas aimé. Je ne suis pas aimé. Et là, c'est pour ça que j'aime bien prêcher Christ, parce que je dirais que Jésus... La réalité de Christ en vous, c'est une solution, ça commence, hein, une solution pour tous ceux qui ne sont pas aimés. Tu vois? Et donc là, Léa, elle est très féconde. Et il dit, verset 32, premier enfant, Léa devient enceinte, elle accoucha d'un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Ruben. Et après, elle définit elle-même un peu ce nom. Et moi j'ai été touché par ça cette semaine. Hein. Il nous est arrivé quelque chose, et bon, c'est un petit truc, mais tout d'un coup, je suis retombé dans un sentiment d'humiliation. Tiens, je ne sais pas si vous avez jamais eu des sentiments d'humiliation, de ne pas être valorisé. Wow. Et... Il dit, Léa devient enceinte, elle accoucha d'un fils, elle donna le nom de Ruben, car dit-il, écoutez bien, l'Éternel a vu mon humiliation. L'Éternel a vu mon humiliation. Quelquefois j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Regarde Seigneur, quelquefois on est dans cet état, quelquefois on est humilié par notre péché. Notre échec personnel, tu sais, quelquefois on est humilié par les autres, tiens, on est humilié, quelquefois on est humilié par la tristesse de ce monde, la bêtise humaine. On voit ce qui se passe. On est humilié par ce qu'on fait à notre monde. Et on est humilié. Quelquefois, il y a des humiliations très intimes dans le couple, dans les choses, dans les familles. Et on souffre terriblement. Mais dans toute cette humiliation, il y a quelqu'un qui connaît. Et Léa, il s'accroche. Et tu imagines son humiliation. Il n'est pas aimé. Elle a une sœur top modèle. Et elle est le petit, comment on dit, le canard boiteux. Tu vois, c'est pas juste. Mais elle doit vivre ça jour après jour. Elle est humiliée. Et on l'enfante. Elle dit, Ruben, ce Christ-là, est-ce que tu as un Ruben en toi? Voyez, voilà, le Seigneur a vu mon humiliation. Et après Ruben, parce que ça veut dire plus que ça, ça veut dire voyez un fils. Voyez un fils. Et tout commence là. Voyez un fils, voyez Jésus-Christ, voyez un fils. Que le Seigneur nous donne un esprit de sagesse et de révélation, qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que nous voyions un fils, pour que nous accueillions un fils, que Christ soit formé en nous. Parce que là, quand nous voyons le fils, nous voyons Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ, comme on a chanté, par son sang, qui parle beaucoup plus que tous les vains discours de l'homme. Là, il y a vraiment le Christ qui dit, voilà, je te pardonne, j'efface ton péché, j'efface ton passé, je guéris, je t'aime. Voyez un fils. Et c'est ce regard qui nous change. Il y a deux regards. Il a vu mon humiliation. Voyez un fils. Ruben dans nos cœurs. Ruben. Je prie que Christ soit formé en vous ce matin. Et je vous donne juste un petit Christ là. Ruben, voyez un fils. Satan, il fera tout pour vous aveugler. Il dit le prince de ce monde a aveuglé les yeux des gens. Pour qu'ils ne voient pas briller la face de Christ. Parce que quand tu vois le Fils, voilà, tu commences à pousser des ailes. Et là, elle a vu un Fils dans son humiliation, au cœur de son humiliation, elle a vu Jésus. Et quand tu vois Jésus, t'es jamais vaincu. Quand tu vois Jésus, t'es plus que vainqueur. Parce que tu as vu un Fils qui te sauve, qui t'aime. Et bien sûr, le sacrement, là, c'est un Ruben. Voyez un fils, on va faire ça à la fin. Voyez un fils qui t'aime. Voyez un fils, il a vu ton humiliation. Il a vu cette mauvaise habitude. Il a vu cet échec. Continue humilié aux yeux du monde. On est souvent humilié aux yeux du monde. On se tape la honte. On se tape la honte souvent. Mais Seigneur, tu vois combien je me tape la honte, Seigneur. Voilà, j'ai vu. Mais regarde combien j'ai pris tout ça sur la croix pour te donner une couronne, pour te transformer, pour te donner des ailes. Voyez un fils. Allez, deuxième enfant, deuxième. 33. Elle devient encore enceinte et accoucha d'un fils. Et elle dit, ah, c'est magnifique encore. L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Waouh! Encore là, il revient à sa blessure. Et Seigneur, il a entendu que je n'étais pas aimé. Tu vois, tu n'es pas seul dans ta souffrance, dans ta solitude, dans ton rejet. Tu n'es pas seul. L'Éternel a entendu. Il a entendu que tu n'étais pas aimé. Et tu sais, le monde ne nous aime pas. Je vais vous dire. Le monde ne nous aime pas. Mais Seigneur, il connaît ça. Il sait. J'ai entendu, Léa, que tu n'étais pas aimée. Et là où toi, tu n'as pas été aimée, peut-être par un papa, peut-être par une maman, peut-être par un frère, peut-être par une sœur, je ne sais pas. Je ne peux pas faire la psychologie, mais c'est... Il y a un tas, on accumule dans nos vies un tas de relations de non-amour, où les gens, peut-être, eux, ils n'ont pas été aimés, et avant, eux, ils n'ont pas été aimés. Ils sont restés chenilles, ils n'ont jamais poussé des ailes pour aimer, pour voler. C'est difficile d'aimer, d'apprendre à aimer. On reste chenilles, donc c'est difficile. Mais Dieu, il veut nous enseigner à aimer. Ça change tout. Il a entendu que je n'étais pas aimé. Il y a une solution pour ceux qui ne sont pas aimés. C'est encore ce Fils qui est formé en vous, ce petit Christ, et lui donna le nom de Siméon. Siméon. Et Siméon vient du verbe entendre. Vous savez, pour les Juifs, quand tu dis entendre, Siméon, il pense tout de suite à Shama, le grand Shama. Et Shama, le cœur de Shama, c'est quoi? C'est quoi le cœur de Shama? La grande déclaration. Écoute, voilà, il a entendu. Écoute, ô Israël, d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils doivent entendre, Shama? Ils doivent entendre aimer Dieu. Seigneur est un seul Dieu. Aime-le. Aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Aime Dieu. Et je pense que c'est vrai, d'un côté, on veut souvent un raccourci. Non, je ne suis pas aimé. Oui, Seigneur, entendu que tu n'es pas aimé. Alors là, on veut ouvrir nos oreilles, on dit, Seigneur, dis-moi que tu m'aimes. Et quelquefois Dieu, il dit, oui, d'accord, ça vient. Mais tu ne peux pas commencer un peu en me disant que tu m'aimes. Oh, mais dis-moi que tu m'aimes. Non, ah, mais c'est comme ça avec les autres personnes. Hein. Ma femme ne me dit jamais, c'est pas vrai, hein, mais ma femme ne me dit jamais qu'elle m'aime. Mais peut-être toi, tu dois commencer à lui dire que tu l'aimes. Oh, Dieu ne m'aime pas. Mais peut-être tu dois commencer à lui dire que tu l'aimes. Shama, entendre. C'est les deux côtés encore. C'est les deux côtés. Mais quand tu dis à Dieu, Shama, je t'aime Seigneur, je t'aime. Parce que tu as déjà un Ruben, hein, j'espère. Et après tu commences à écouter et tu dis, Seigneur, merci. Je t'aime parce que tu as payé le prix pour moi. Je t'aime. Mais après, quand tu dis à Dieu, tu t'aimes, oh, le ciel s'ouvre sur toi, je te le dis. Je te le dis, le ciel s'ouvre sur toi. Et Luc 3, 21, hein, tu as peut-être l'accomplissement du Shama au début du ministère de Jésus. Luc 3, 21, tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, peut-être il priait le Shama, peut-être il disait, Dieu mon Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Je ne peux pas prouver ça, mais il dit, il priait quelque chose. Hein. Le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et il vient une voix du ciel. Tu es mon fils, bien-aimé, objet de mon affection. Waouh! Shama. Seigneur a entendu que je n'étais pas aimé, d'accord? Mais il te répond aussi. Il te donne un Shama. Et tu peux aussi entendre par le Saint-Esprit. Pas juste l'écho, pas juste la sonorité des boum, boum, boum. Ce n'est pas juste un bruit, quoi. Tu entends au plus fort de ton être. C'est pas écouter, être pénétré par un son, une parole, être pénétré par une parole qui t'enveloppe, qui enfante Christ en toi, qui forme Christ en toi. C'est ça où on est censé rencontrer Christ dans l'Église, dans sa parole vivante, qui nous parle et qui nous forme et qui reste en nous comme une chose vivante.